Je ne sais pas ce que vous retenez de cette vidéo. Il y a beaucoup à dire, beaucoup de choses qui touchent forcément nos cœurs, j'espère en tout cas. Et cette vidéo fait le lien en fait entre la persécution des Huguenots en France, ici même, il y a plus de 500 ans, et celle des chrétiens persécutés aujourd'hui encore dans plusieurs pays. Ces derniers dimanches, nous avons célébré la Réforme, les 500 ans de la Réforme, à travers une série de 5 prédications sur les 5 solas de la Réforme. La foi seule, Christ seul, l'Écriture seule, la grâce seule, la gloire de Dieu seul. Mais au-delà de ces 5 piliers de la Réforme, il faut bien vous imaginer que, suite à cette Réforme, la persécution a été le quotidien de nos aïeux dans la foi. La persécution a été le quotidien des Huguenots pendant de longues années, ici même en France. Aujourd'hui encore, la persécution touche, on estime, 215 millions de chrétiens à travers le monde. Porte Ouverte estime qu'un chrétien sur 12 à travers le monde subit la persécution à cause de sa foi. Un chrétien sur 12. Et ce matin, nous allons revenir sur le texte qui était affiché pendant la vidéo, qui se trouve dans Hébreux chapitre 10, versets 32 à 34. Et essayer de voir quelle leçon l'auteur aux Hébreux veut nous enseigner à travers ce texte. Hébreux 10, versets 32 à 34. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Dans ce passage, l'auteur donc, de l'Épître aux Hébreux nous livre 3 conseils dans ce combat contre la persécution, 3 conseils pour survivre dans la persécution à cause de notre foi. Se souvenir, soutenir le combat et s'associer. Ces 3 conseils. Les chrétiens auxquels s'adresse cette lettre avaient subi la persécution dès le début de leur foi, juste après avoir été éclairés, nous dit le texte. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, juste après être convertis, ces chrétiens avaient subi la persécution. Et cela reste très actuel. Porte Ouverte fait le constat, encore aujourd'hui, que la persécution survient souvent dès les premiers instants de la conversion d'un homme, d'une femme, dans ces pays compliqués, difficiles. Pourquoi ? Tout simplement parce que ceux et celles qui se convertissent quittent, quelque part, la croyance traditionnelle, la croyance suivie par la majorité de ceux qui les entourent. Et ça, on n'aime pas. On ne supporte pas. C'était déjà le cas au XVIe siècle, en France, où dans les premiers jours des églises protestantes et évangéliques, après la Réforme, les chrétiens ont été persécutés par le pouvoir en place. Ces églises ont vécu des périodes très difficiles, très compliquées, après la révocation de l'édit de Nantes, une période qu'on a appelée, tellement c'était compliqué, la période du désert. La période du désert. Les chrétiens, à ce moment-là, en France, se réunissaient en secret. Ils ont dû accepter qu'on leur vole leurs biens, lors de ce qu'on appelait les dragonnades. Beaucoup ont été emprisonnés, maltraités, et plusieurs ont dû fuir dans d'autres pays protestants, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, l'Angleterre. D'autres ont dû fuir en Genève. Ils ne pouvaient pas continuer à vivre en France, dans notre pays. Parmi tous ces hommes et femmes, je vous cite simplement 3 exemples d'Huguenots persécutés en France au XVIe siècle. Nos aïeux dans la foi. Nicolas Ballon, qui a fait plusieurs voyages de contrebande entre la Suisse et la France pour passer des Bibles. Il a été arrêté et tué en 1556 à Poitiers. Philibert Hamelin, un ancien prêtre devenu protestant. Il a mis en place une imprimerie de Bibles à Genève. Et quand il est retourné en France, il a été condamné à mort et tué en 1557 à Bordeaux. Peut-être la plus connue, dont on a vu quelques petites choses lors de la vidéo, Marie Durand, qui a été emprisonnée à la tour de Constance, à Aigues-Mortes, pendant 38 ans, de 1730 à 1768, en raison de sa foi. Voilà des exemples de ce qui s'est passé en France il y a quelques 500 ans. Mais aujourd'hui, ça continue malheureusement. Dans d'autres parties du monde, les chrétiens souffrent encore au tout début de leur vie chrétienne. En Inde, les chrétiens subissent la persécution en partie parce qu'ils sont nombreux à quitter l'hindouisme pour venir à Christ. Souvent, ces nouveaux convertis viennent des minorités tribales, des castes très basses de la société, des intouchables. Et pour les obliger à se reconvertir à l'hindouisme, les hindous organisent des campagnes qu'ils nomment « retour à la maison ». Retour à la maison. Et dans ces campagnes, ils entrent dans les villages, usent de violence, de menaces, pour obliger les nouveaux convertis à revenir vers l'hindouisme. Dans le monde musulman, ceux qui sont le plus persécutés ne sont pas les membres des églises officielles, traditionnelles, mais les jeunes convertis. Il existe des mouvements importants de conversion dans les pays comme en Iran, par exemple, où selon certains, c'est dans ce pays, en Iran, que l'église progresse le plus vite. C'est aussi l'histoire du pasteur Reza. Je vais juste laisser Alex vous donner, vous conter cette histoire.
Histoire du pasteur Reza. Parce qu'il dirigeait une communauté de chrétiens d'arrière-plan musulmans, le pasteur Reza a passé plusieurs mois en prison. Il faut savoir ce qu'on risque en faisant ce genre de travail en Iran. Ce n'est pas un jeu. On met en danger sa famille, on risque sa vie, dit-il. Reza a été arrêté chez lui. Les policiers lui ont bandé les yeux et l'ont fait monter dans une voiture pour le conduire en prison. La cellule faisait la taille d'un lit pour une personne. Dans un coin, un petit WC, la lampe était allumée jour et nuit. Il n'avait droit qu'à une douche par semaine, de 3 minutes seulement. Mais le pire était la constante solitude. Tous les 2 ou 3 jours, les gardiens emmenaient Reza à l'interrogatoire pour obtenir des informations sur les membres de sa communauté. Je passais le plus clair de mon temps en prière. Je marchais inlassablement dans ce petit espace, deux pas dans un sens, 2 pas dans l'autre, et je parlais à mon Seigneur. Une nuit, Reza a entendu les gardiens battre violemment le détenu de la cellule voisine. Après le départ des tortionnaires, il n'a pu percevoir qu'un faible gémissement désespéré. Et si c'était moi le prochain? Et s'ils me battent si fort que j'en perdrai la vie, se demanda Reza. Il poursuit, en prison, j'ai reconnu à quel point j'étais dépendant des choses terrestres. J'ai pris conscience qu'il ne me restait plus que Jésus-Christ. Et c'était le plus important pour moi.
L'auteur de la lettre aux Hébreux nous encourage à nous souvenir. Il ne s'agit pas d'un souvenir vague ou lointain. Le verbe utilisé dans l'original signifie « repenser attentivement », « repasser en soi-même les événements », « prendre du temps pour se souvenir ». Mais pourquoi est-ce si important de se souvenir? Parce que nos propres expériences de vie passées devraient nous stimuler dans notre foi. Cela nous permet de nous souvenir de l'action de Dieu dans nos vies. Et ces chrétiens pouvaient se souvenir de l'action de Dieu dans leur vie. Parce que savoir qu'il y a 500 ans, des chrétiens étaient persécutés dans notre pays, là où nous sommes aujourd'hui, nous permet d'avoir plus conscience du privilège qui est le nôtre aujourd'hui. Et plus conscience aussi, je crois, que ce n'est pas un acquis et que peut-être la persécution reviendra un jour en France. Parce que l'exemple de l'Église persécutée peut aussi nous encourager et nous motiver à vivre notre propre vie de foi aujourd'hui, dans un pays où nous avons plus de liberté pour vivre notre foi. Nous sommes exhortés à nous souvenir des persécutions passées et actuelles afin d'y puiser le courage de poursuivre notre cheminement de foi aujourd'hui et demain. Mais pour nous souvenir, encore faut-il le savoir. C'est pour cela qu'il est important de nous tenir informés de ce que vivent nos frères et sœurs persécutés à travers le monde. Pour cela, par exemple, Porte Ouverte envoie chaque semaine le fil rouge et Alex nous le renvoie de temps en temps la plupart du temps, au niveau de la Google List de l'Église. Est-ce que vous prenez le temps de lire ce fil rouge? Est-ce que vous prenez le temps de prier par rapport à ce que les informations que vous recevez? En France, on parle du devoir de mémoire. Devoir de mémoire comme d'une obligation morale de se souvenir de certains événements historiques, tragiques et de ses victimes, afin de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. On parle du devoir, on évoque le devoir de mémoire, notamment en particulier par rapport à la traite des Noirs, à la Shoah ou à d'autres génocides malheureux. Je vous suggère qu'en tant que chrétiens, nous avons aussi un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire dans deux aspects en particulier. D'abord, un devoir de mémoire envers nos aïeux dans la foi en France, qui ont subi la persécution tout en permettant à l'Évangile de prospérer, de progresser dans notre pays, en Europe aussi. Nous sommes au bénéfice des sacrifices que ces hommes et ces femmes ont supportés parce qu'ils avaient pleinement conscience que leur obéissance à la parole de Dieu était plus importante que leur vie, que leur vie même. Que connaissons-nous de l'histoire des Huguenots ? Sommes-nous bien conscients du merveilleux héritage qu'ils nous ont laissé et qui nous permet aujourd'hui de vivre notre foi librement ? Est-ce que nous avons conscience de cela ? Un devoir de mémoire aussi envers nos frères et sœurs persécutés aujourd'hui même dans d'autres contrées, dans d'autres pays, à travers le monde. Si nous nous satisfaisons de la relative facilité de vivre notre foi ici dans notre pays de France, sans avoir à aucun moment ni aucune pensée, ni aucune prière pour nos frères et sœurs qui louent et qui adorent le même Père que nous, alors je crois que c'est que nous n'avons rien compris à ce que signifie le corps de Christ. C'est que nous n'avons rien compris à ce que l'Église, à ce que Dieu a comme projet pour l'Église universelle. Nous avons besoin de nous souvenir. Si ce matin, c'est notre cas, que nous oublions, que nous ne voulons pas penser à ces choses-là, alors je pèse mes mots, mais honte à nous. Honte à nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux continue et encourage les destinataires de sa lettre à soutenir un grand combat. Mais de quel combat s'agit-il exactement ? Le fait que l'auteur évoque que ces chrétiens ont été exposés comme en spectacle aux opprobres fait dire à certains commentateurs qu'ils ont été jetés sans défense à des bêtes féroces. Et on sait que ça a été le cas pour certains chrétiens. Ou encore qu'ils ont été forcés à combattre dans des arènes jusqu'à la mort. On ne sait pas vraiment si c'était le cas de ces chrétiens auxquels l'auteur aux Hébreux écrit sa lettre. Mais en tout cas, ils ont été exposés à l'opprobre et à des afflictions de tout genre, privés de leurs biens, battus, jetés en prison. On peut aussi voir dans ce combat à soutenir une métaphore qui évoque le combat à mener pour la foi, comme Paul l'évoque aussi en 2 Timothée 4:7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La vie chrétienne demande un effort qui peut être même violent. Je dirais même plus, la vie chrétienne impose son lot de souffrances. La vie chrétienne impose son lot de souffrances. Différent pour chacun. Et cette souffrance peut provenir entre autres de la persécution, pour certains, comme pour les destinataires de cette lettre aux Hébreux. Ou encore de nombreux chrétiens qui, à cause de leur foi, sont emprisonnés, battus, persécutés. Et cette persécution peut prendre de nombreuses formes variées. Des accusations mensongères ou diffamatoires, c'est une persécution publique qui entraîne le rejet social de la part des amis, de la famille, du voisinage. Une jeune femme en Indonésie, par exemple, a choisi de suivre Jésus. Lorsqu'elle en a parlé à ses parents, elle a été chassée de la maison et du village. Et en plus de ce terrible rejet, les parents ont fait courir la rumeur qu'elle était devenue une prostituée. C'est aussi l'histoire de deux sœurs, Mena et Sunita, que nous avons vues lors de la vidéo. Je laisse la place encore à Alex.
Mena et sa sœur Sunita viennent de l'état d'Oshida. C'est là que l'Inde a connu en 2008 ses plus graves agressions contre des chrétiens. Mena et Sunita ont entendu parler de Jésus grâce à une émission de radio chrétienne. Quand les villageois ont appris que les deux sœurs étaient converties, ils les ont persécutées. Un jour, alors qu'elles revenaient de la forêt où elles avaient cueilli des fruits, des extrémistes hindous se sont emparés de leurs cueillettes et ils leur ont interdit d'utiliser la fontaine du village. Mena et Sunita se sont alors enfuis et sont restés cachés. Pendant des heures, elles ont entendu des extrémistes crier « Où sont-elles ? Brûlez-les » Quand les dangers apparus écartés, elles se sont rendues dans un autre village où elles ont été accueillies par des chrétiens. Plus tard, alors qu'elles étaient revenues chez elles, les villageois les ont agressées, insultées et traînées à l'extérieur. Puis quelques hommes se sont mis à les frapper avec des bâtons de bambou. Mena et Sunita ont tenté de se protéger mutuellement, mais elles n'avaient rien à opposer à la violence. Ils m'ont cassé 5 ou 6 bâtons sur les deux, mais j'ai senti en moi une joie immense, car j'étais digne de souffrir pour Jésus, se souvient Mena. Quant à Sunita, elle a enduré les coups jusqu'à perdre connaissance. Quand je suis revenu à moi, j'ai vu que l'os de mon poignet était cassé, il sortait. Elle a aussi prié pour que la volonté de Dieu soit faite. Je peux mourir ou je peux témoigner de toi. Permets-moi d'être un témoin. Une fois les hommes partis, les deux sœurs grièvement blessées se sont retrouvées dans la maison d'une chrétienne. Mais celle-ci avait peur. S'ils vous retrouvent ici, ils vous tueront. Mena et Sunita continuent à se cacher. Portes ouvertes leur fournissent de la nourriture et de l'aide des premières nécessités. Ils prennent en charge leurs frais médicaux. Merci pour vos prières et pour votre soutien. Vous nous aidez à tenir bon dans la foi, dit Mena.
La persécution peut aussi prendre une forme quand on enlève tous les biens à quelqu'un. En Iran, le gouvernement pratique une politique d'appauvrissement des chrétiens. Ces derniers sont emprisonnés pour être ensuite relâchés sous caution. Et le montant requis pour la caution sont souvent exorbitants, plusieurs dizaines de milliers d'euros, et dépouillent les familles tout en enrichissant les autorités. Un chrétien d'Irak témoigne aussi. Un combattant de l'organisation État islamique m'a dit qu'il n'y avait pas de place dans la plaine de Ninive pour les infidèles et que nous devions déguerpir immédiatement. Et avant de nous les faire monter dans le bus en direction du Kurdistan, les djihadistes nous ont pris notre argent, nos bijoux et tous nos objets de valeur. Je n'avais plus que les vêtements que je portais et des sandales aux pieds. Cela peut être aussi la forme de la discrimination économique. La discrimination commence dès l'école. Refus de donner de bonnes notes. Les enfants de familles chrétiennes doivent s'asseoir au fond de la classe, etc., etc., etc. Ou au village, les commerçants pratiquent des prix plus élevés pour les chrétiens. Au Pakistan, les chrétiens sont enfermés dans les quartiers ghettos et assignés aux métiers les moins valorisants. Les portes ouvertes soutiennent les communautés chrétiennes avec une aide au développement économique pour compenser la discrimination qu'ils subissent. L'auteur nous encourage à soutenir le combat de la foi. Et le verbe traduit par soutenir a aussi le sens de persévérer. L'auteur nous encourage donc à persévérer dans le combat de la foi. Et malgré les difficultés, malgré la persécution, le combat de la foi doit se poursuivre, doit continuer. Où en sommes-nous dans notre propre combat pour la foi? Est-ce que nous le soutenons ou est-ce que nous avons baissé les bras? Notre combat contre le péché, avons-nous baissé les bras ou est-ce que nous soutenons ce combat contre le péché? Notre combat dans la prière, avons-nous baissé les bras ou est-ce que nous soutenons encore ce combat dans la prière? Notre combat pour la propagation de l'évangile, avons-nous baissé les bras ou soutenons-nous encore ce combat? Au-delà du courage dont font preuve les destinataires de la lettre aux Hébreux, l'auteur souligne aussi une troisième caractéristique qui est forte chez eux. Ils font preuve d'une solidarité à toute épreuve. Ils s'associent à ceux dont la position était la même. Ils s'associent à ceux qui sont persécutés comme eux. Et par leur attitude, ils illustrent de façon saisissante ce qu'affirme 1 Corinthiens 12:26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Les chrétiens dont nous parle l'Épître aux Hébreux ont manifesté un engagement public pour l'Église persécutée, alors même qu'il existait un réel danger pour eux de s'associer à ces chrétiens persécutés. L'auteur aborde à nouveau ce sujet en Hébreux 13, verset 3, où il dit « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. » Les prisonniers pouvaient mourir de faim, à moins que leurs amis ne leur apportent de la nourriture. Mais s'identifier à eux voulait aussi dire courir le risque d'être mis en prison eux-mêmes. Les prisonniers de la tour de Constance, où Marie Durand était, et plein d'autres femmes notamment, ces prisonniers-là, détenus après la révocation de l'édit de Nantes, dépendaient de l'argent collecté à l'étranger pour pouvoir s'acheter des vêtements et de la nourriture. Aujourd'hui, en Érythrée, plusieurs centaines de chrétiens sont emprisonnés dans les pires conditions possibles en raison de leur foi. Et pour manger, ils dépendent de leurs proches. Ces derniers, en venant leur apporter à manger, se font immanquablement remarquer par les autorités. Et pour nous, comment pouvons-nous concrètement aujourd'hui nous associer aux chrétiens persécutés? Porte ouverte nous propose différents moyens d'agir. Il y a des pétitions que nous pouvons signer, qui est une façon de montrer un engagement public pour les chrétiens persécutés. On l'avait fait l'année dernière. Il y a aussi des messages que nous pouvons envoyer à l'Église persécutée, des messages d'encouragement pour nos frères et sœurs, pour montrer notre solidarité avec eux. Il y a la prière, bien évidemment, où nous pouvons nous associer à nos frères et sœurs. Nous aurons un temps de prière après, en petits groupes de 5-6 personnes, avec des sujets spécifiques par rapport à l'Église persécutée qu'Alex introduira. Nous avons aussi le partage de nos biens, parce que nous avons le privilège d'avoir des biens pour offrir à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et là aussi, Jean-Marc nous présentera un peu le temps d'offrande, qui est un projet spécifique pour les chrétiens en Chine, les chrétiens persécutés en Chine. Nous avons différents moyens aujourd'hui de nous associer pleinement à nos frères et sœurs qui sont dans l'Église persécutée à travers le monde. En conclusion, se souvenir, soutenir, s'associer, voilà les trois mots-clés que nous laisse ce passage pour vaincre la persécution, quelle que soit sa forme, quelle que soit la forme qu'elle prend. À quel point nous souvenons-nous de l'œuvre de Dieu dans nos vies? Où en est-on-nous de notre combat pour la foi? Comment nous associons-nous à nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi? Ce sont les questions que nous pose ce texte, ce sont les questions que nous devons répondre aussi devant Dieu. Et je vous propose maintenant d'avoir vraiment ce temps de prière. Alex va nous introduire les différents slides, il y a 3 slides de sujets de prière qui vont circuler pendant le temps de prière que nous allons pouvoir associer. Merci.
Il y a quelques sujets des prières pour des différents chrétiens à travers le monde, dans différents pays. Je préfère rester en bas pour... Bon, je vais lire les sujets des prières. Premier, 2 pasteurs au mois d'octobre ont été attaqués par des extrémistes hindous en toute impunité à cause des lois anti-conversion qui existent au pays. Ces lois punissent la conversion forcée, mais en réalité, elles sont utilisées contre quiconque voudrait quitter l'hindouisme, et notamment contre les chrétiens. Donc, 2 sujets de prière, on va prier pour ces 2 pasteurs, leur famille et leur communauté, et aussi prier pour l'abolition de ces lois anti-conversion qui ont été adoptées dans 8 États des Landes. Un deuxième sujet de prière, en Iran, Mariam est sortie de prison le 1er août 2017 après 4 ans de détention. La santé de cette chrétienne âgée de 39 ans s'était considérablement dégradée à cause de son séjour en prison. Il nécessitait des soins médicaux d'urgence. Elle avait effectué plusieurs grèves de la faim. De sujet des prières, on va remercier Dieu et continuer à prier pour Mariam. Et prions pour les dizaines de chrétiens iraniens qui ont subi des arrestations arbitraires et doivent payer des cautions exorbitantes dans le but de les décourager et de les appauvrir. Troisième sujet, en Érythrée, récemment, en fait, 30 octobre, le gouvernement a interdit le port de tout signe religieux à l'école, une nouvelle restriction prise contre la liberté d'expression alors que plus de 120 chrétiens ont été arrêtés depuis mai dernier. On va prier pour les chrétiens érythréens en prison pour leur foi. Ils sont maltraités et risquent de la torture. Ils prions aussi pour leurs familles. Un deuxième sujet, prions pour que le président Afewerki change ses positions concernant les églises évangéliques interdites dans le pays. En Irak, alors que certaines des familles chrétiennes sont revenues dans leur village libéré, beaucoup craignent une nouvelle vague de violence. La plaine de Ninive est désormais disputée entre les Kurdes, l'armée irakienne et les milices chiites. On va prier pour que Dieu donne sa paix aux familles qui reviennent. De nombreux défis les attendent, en plus de la reconstruction. Le plus grand challenge est sans doute de devoir montrer de l'amour à leurs voisins qui les ont dénoncés à Daesh. Et enfin, dernier sujet, la pétition Moyen-Orient à l'ONU. Attendre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour lui remettre la pétition, notre pétition pour les chrétiens du Moyen-Orient n'est pas une chose facile. Nous visons le 11 décembre. C'est un beau symbole car c'est le lendemain de la journée des droits de l'homme. Nous attendons confirmation. Donc, on va prier pour que Dieu nous ouvre les portes et que le cœur de nos interlocuteurs à l'ONU soit touché. Ils prieront aussi pour l'impact efficace sur le terrain pour les chrétiens d'Irak et de Syrie. Donc, on a plusieurs sujets. Donc, maintenant, on propose de s'organiser en groupe de 5 et 6 personnes. Et voilà, comme Stéphane a évoqué tout à l'heure, les sujets vont passer au fur et à mesure.